Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, est notre invité ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous avez publié L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée au seuil. Et en ce 1er août, nous sommes au cœur des vacances et on revient sur une enquête que vous avez réalisée pour la Fondation Jean Jaurès avec David Nguyen de l'IFOP et Simon Thirault, qui est le délégué général de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air. Titre de cette enquête, les Français et les vacances, quelles inégalités ? Point d'interrogation. Alors il y a plusieurs constats dans cette enquête. Premier constat, selon les catégories sociales, on a des conceptions différentes des vacances.
Alors effectivement, si les vacances sont un moment très fédérateur dans une société de loisirs et de consommation comme est la nôtre aujourd'hui, le rapport aux vacances varie quand même assez sensiblement selon le type ou la catégorie de population. On a encore une vision très traditionnelle et très classique des vacances, par exemple dans les milieux populaires, chez les ouvriers, les employés. Et cette conception très classique, quelle est-elle ? Eh bien, c'est celle d'un repos bien mérité pour, si vous me permettez l'expression, recharger les batteries après une dure année de labeur. Parmi les populations plus favorisées, les classes moyennes et les cadres, on est plus sur des visions ou des conceptions, on va dire, plus modernes des vacances.
C'est-à-dire
un vent de liberté, la capacité à aller s'ouvrir vers d'autres horizons et de rompre avec le quotidien. Donc on voit que, encore une fois, les vacances sont assez liées, en termes de conception et de pratique, à la position sociale que les individus vont occuper.
Des clivages sociaux profonds dans l'accès aux vacances, là aussi c'est un des constats de cette enquête.
Alors oui, effectivement, nous avons à peu près 60% de la population qui part en vacances sur la période estivale, donc c'est quand même assez massif. Mais d'un autre côté, nous avons donc 40% qui ne partent pas. Alors certains par choix, notamment le public des seniors qui décident ou qui préfèrent partir hors saison. Mais aussi, on a toute une partie de la population qui ne part pas pour des contraintes financières. Et là, quand on a creusé les choses, on s'est rendu compte que 40% de la population avait déjà renoncé à partir pour des raisons financières au cours des 5 dernières années. Alors, 5 dernières années, ça nous ramène pas très loin du déclenchement de la crise économique de 2008-2009, qui a notamment frappé le bas de la classe moyenne, qui aujourd'hui est soumis à la hausse des dépenses contraintes et qui, dans un jeu d'arbitrage, va parfois, la mort dans l'âme, renoncer à partir en vacances. Je dis la mort dans l'âme parce que, dans une société comme la nôtre, ne pas partir en vacances, c'est un signe de déclassement qui est très douloureusement ressenti, notamment à l'heure des réseaux sociaux où chacun peut se mettre en scène sur ses vacances. Et donc ceux qui restent, le ressentent assez douloureusement. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si, dans notre enquête, les gens qui se reconnaissaient comme étant proches du mouvement des Gilets jaunes sont ceux qui ont le plus souvent renoncé à partir en vacances ces dernières années.
Autre constat dans cette enquête, Jérôme Fourquet, l'offre touristique, elle monte en gamme et donc c'est difficile de suivre pour les classes populaires ou le bas de la classe moyenne.
Alors effectivement, on a parlé à l'instant de ces logiques d'arbitrage avec des dépenses contraintes qui augmentent. Un autre facteur qui explique ce fait que une partie de la population va rester à quai, entre guillemets, c'est le fait qu'un certain nombre de structures qui permettaient l'accueil des publics les plus modestes, je pense notamment au camping ou au centre ou au village vacances, sont montés en gamme. Dans le jargon des professionnels, on appelle ça la premiumisation. Alors ça se traduit comment ? Très concrètement, par exemple, le nombre de campings 1 ou 2 étoiles qui diminue drastiquement au profit des campings 4 ou 5 étoiles, le nombre de places d'emplacement réservées aux toiles de tente ou aux caravanes qui diminue au profit des fameux mobilhomes. Cette industrie qui aujourd'hui, l'industrie du camping, s'appelle dans le jargon des professionnels l'hôtellerie de plein air, les mots ont un sens. La qualité de service qui va être proposée aux gens est bien évidemment très sensiblement rehaussée, mais le ticket d'entrée l'est également. De la même manière, les villages vacances ou les centres qui dépendaient des comités d'entreprise notamment, beaucoup ont été filialisés avec une volonté de diversifier la population et la clientèle, de viser une clientèle plus premium, plus de cadres. Et donc on a aujourd'hui une partie de la population plus modeste qui a plus de difficultés à trouver des structures qui permettent de les accueillir à bas prix.
Je rappelle cette enquête pour la Fondation Jean Jaurès et Jérôme Fourquet, les Français et les vacances, quelles inégalités. Il y a un constat encore, les transports pour aller sur un lieu de vacances sont devenus chers.
Alors effectivement, qu'il s'agisse de la SNCF, qui a joué un rôle majeur dans les Trente Glorieuses et avant dans la démocratisation de l'accès aux vacances, avec notamment les fameux billets de congés payés. Aujourd'hui, la SNCF se comporte de plus en plus comme une compagnie aérienne en adaptant, en modulant ses tarifs avec des coûts qui peuvent être très très élevés. On a pris quelques exemples. Une famille avec deux enfants qui fait un Paris-Van aller-retour en TGV au mois d'août, c'est 400 euros. Même avec des réductions pour les enfants, donc 400 euros. Vous voyez que ça, c'est un poids très important. Ceux qui prennent la voiture ne sont pas en reste. On parlait tout à l'heure du diesel. Si on prend des trajets classiques, des gens qui descendent du nord de la France, de Lille ou d'Amiens, et qui se dirigent pour passer leurs vacances en allant chercher le soleil vers la Méditerranée, sur la Côte d'Azur, un aller-retour en voiture, c'est 400 euros entre l'essence et le péage. Donc là aussi, un budget qui est relativement conséquent. Alors face à cela, on a des stratégies alternatives qui se sont mises en place. On a parlé de la SNCF à l'instant qui a lancé son offre Ouigo. Donc on a les TGV, les trains classiques, maintenant il y a le Ouigo. On a aussi tout ce qui est le covoiturage, ou pour ceux qui ont davantage de temps, les itinéraires en bus, pour essayer justement de répondre à cette montée des dépenses contraintes et permettre aux publics les plus modestes de pouvoir partir quand même.
Clairement, le droit aux vacances n'existe pas pour tout le monde, et vous suggérez le lancement d'une action politique et sociale plus forte pour défendre ce droit aux vacances.
Mais effectivement, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, on a une très forte surreprésentation des gens qui se reconnaissent dans le mouvement des Gilets jaunes parmi ceux qui ne partent pas. Et on se souvient que au pic de cette crise, dans les reportages qui étaient faits dans les manifestations, beaucoup citaient avec beaucoup d'amertume le fait qu'ils ne puissent plus partir en vacances. Il faut bien qu'on ait en tête que dans une société comme la nôtre, l'accès aux vacances, l'accès aux loisirs est aujourd'hui quelque chose qui est très très central, et donc ceux qui ne peuvent pas y recourir ou y accéder se sentent douloureusement exclus. Donc on a effectivement développé avec la Fondation Jean Jaurès et les gens de l'UNAT une palette de propositions.
Les Français et les vacances, quelles inégalités? C'est une enquête à lire sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, spécialiste des études d'opinion. Oublions les vacances quelques instants et on revient à l'actualité immédiate. Le gouvernement, face à la mort du jeune Steve à Nantes le soir de la fête de la musique, cette affaire, selon vous, avec ses nombreuses zones d'ombre, ses questions sans réponse, cette affaire va-t-elle accentuer les tensions, les fractures sociales, politiques en France que vous décrivez dans votre livre « L'archipel français ».
Alors, on va voir comment cette affaire évolue, mais effectivement, elle est assez lourde politiquement et aussi humainement. Il y a quand même eu un jeune homme qui est décédé. Et tout ça s'inscrit quand même dans un contexte très particulier, qui est un contexte de violence sociale assez forte. On sort encore une fois du conflit des Gilets jaunes. On a depuis quelques jours une série de permanences d'élus qui ont été attaqués. On a une petite musique qui monte aussi sur les violences policières. Donc tout ça crée un climat assez électrique, assez tendu. Et quand il y a quelques jours, le président de la République, dans un bain de foule à Bormes-les-Mimosas, au lieu touristique s'il en est, a posé le diagnostic selon lequel les braises de la crise des Gilets jaunes n'étaient pas éteintes, eh bien je pense qu'il avait parfaitement raison. Et on voit que avec cette affaire Steve, on est encore dans le prolongement de ces tensions qui ne sont pas prêtes, à mon avis, de s'éteindre.
Jérôme Fourquet était l'invité de France Inter ce matin. Merci beaucoup.
Merci à vous.